15h38.
On sait qu'il y a beaucoup d'enjeux financiers autour de cette crise et de ce conflit. Qui est responsable et qui entretient en tout cas ces réseaux d'armement qui alimentent la guerre en Syrie?
Alors tout à fait, comme toute guerre qui dure, qui se prolonge, il y a une économie de guerre qui s'établit, il y a des seigneurs de guerre, des princes de guerre. Je me rappelle, durant la guerre civile libanaise, il y avait toute une économie alternative, en parallèle, qui s'établissait, informelle, qui créait des emplois. Il y a le trafic d'armes, il y a la vente des armes, il y a les salaires des miliciens, il y a l'ascension sociale des princes guerriers, des chefs de milice. Tout ça est tout à fait correct, et pour imposer un cessez-le-feu durable et pour trouver une solution politique durable, il faut que tout cela cesse et qu'il y ait de nouveau une monopolisation de la violence par un État. Sauf que si on dit ça seulement, et si on ne continue pas avec la suite qui est obligatoire, c'est comme si on souhaite que Assad gagne et récupère tout le pays et impose de nouveau la terreur, la dictature et la tyrannie qu'il impose avec son père depuis 1970. Parce que pour finir avec la guerre, il faut aussi couper l'armement du régime syrien, il faut aussi que les Russes quittent le pays, il faut aussi que les Iraniens et les milices chiites libanaises, irakiennes et autres quittent le pays. Il faut que les dépôts d'armes de l'armée du régime et de ce qui reste de cette armée soient saisis par une force, dans ce cas-là, de maintien d'ordre ou de paix. Ou bien, il faut penser à un processus politique, à une reconstruction des institutions, y compris les institutions militaires et sécuritaires, pour garantir que les mêmes criminels à la tête de ces institutions-là aujourd'hui, c'est-à-dire à la tête de l'armée du régime, à la tête de ses services de renseignement, ceux qui torturent dans les prisons, ceux qui violent, ceux qui tuent, ne doivent plus être dans les places où ils sont. Parce que si on coupe les armes à ceux qui les combattent, c'est comme si on leur donne encore plus d'impunité, encore plus de possibilités de tuer, de massacrer, de violer et de torturer. Donc je pense que la question doit se poser à partir de là. Pour en finir avec la guerre en Syrie, il faut le départ de la famille Assad et des chefs des services de renseignement, des chefs de l'armée, etc. Et il faut en même temps étouffer l'économie de guerre, ne plus permettre aux princes guerriers de recevoir encore des armes. Et donc, il faut démilitariser les milices qui, entre autres choses, ont combattu le régime et ne lui ont pas permis de gagner militairement, même si aujourd'hui, il est, grâce aux Russes et aux Iraniens, en une position de loi meilleure que celle dans laquelle il était en 2015. Mais malgré cela, il ne contrôle aujourd'hui que 20% du territoire. Donc, il y a encore 80% du territoire qui échappe à son contrôle, qui est contrôlé soit par l'opposition, soit par Daesh, soit par les milices kurdes. Donc, pour, encore une fois, finir avec la fragmentation du territoire, pour essayer d'unifier le pays, il faut un processus politique qui va au-delà de la question juste des milices et des armes qui rentrent, même si, évidemment, c'est un enjeu. Mais à savoir aussi que au niveau de ces armes-là, c'est asymétrique. C'est-à-dire, si du côté de la frontière turque ou avant de la frontière jordanienne, il y avait des kalachnikovs et des lance-roquettes et qui rentraient avec leurs munitions, et s'il y avait l'arme la plus sophistiquée qui rentrait, c'était les missiles Tau, tout cela est incomparable et négligeable face aux avions, aux chars, aux blindés, à l'artillerie lourde, aux missiles Scud qui rentraient pour soutenir le régime et pour le sauver de la part de ses sponsors. Donc c'est incomparable au niveau économique, au niveau de l'impact de la destruction et au niveau des crimes que cela engendrait. Il y a des crimes de guerre commis partout, mais il y a énormément de différences entre un bombardement aveugle qui touche des civils tout en touchant l'ennemi entre guillemets. Il y a une différence entre un bombardement qui, vu les combats et vu ce qui se passe dans un espace urbain, tue des civils, mais pas d'une manière intentionnée, d'un côté, et de l'autre, les bombardements systématiques qui n'ont comme but que de viser les civils, que de détruire des hôpitaux. Des dizaines d'hôpitaux et de centres médicaux, de dispensaires ont été visés systématiquement par l'armée du régime et par les Russes, pas seulement à Alep, mais dans plusieurs régions. Donc, certainement, Il faut en finir avec l'économie de guerre, il faut contrôler les frontières, mais après une transition politique, ou bien durant une transition politique, pour la rendre plus efficace et plus correcte.
En effet, on en est loin parce que personne, soit des deux camps, n'a envie de déposer les armes actuellement. Et puis ce serait aussi le départ, j'imagine, de tous ces combattants étrangers qui ont rallié Daesh.
Qui sont moins nombreux que les djihadistes chiites qui ont rallié le régime. Ils sont beaucoup moins nombreux, les djihadistes étrangers qui ont rallié Daesh, comparé aux djihadistes étrangers qui ont rallié le régime à travers le Hezbollah libanais, les milices chiites irakiennes, les milices chiites afghanes, pakistanaises, etc. Au niveau des chiffres, on parle de plus de 30 000, voire 40 000 combattants chiites que l'Iran à mobiliser avec évidemment les volontaires iraniens et les officiers iraniens. Et du côté de Daesh, c'est moins de la moitié qui sont étrangers, qui ont rallié l'État islamique. On oublie que les djihadistes, ils sont d'un côté sunnites avec Daesh, de l'autre chiite avec le régime. Ce sont tous les deux djihadistes. Ils n'appartiennent pas à la Syrie et ce n'est pas leur cause, la cause syrienne. Ils sont là pour des considérations soit idéologiques, soit géostratégiques, parce qu'ils sont affiliés à des alliances, à des axes dans la région.